Bonjour tout le monde. Quand même, dans l'autre pièce, j'avais l'impression qu'on était plus nombreux. Alors, Monsieur Gouin, Madame Paradis, si vous voulez venir avec nous, on va commencer. Oui, tout le monde est loin ce matin. On va attendre les 15 personnes qui vont arriver dans les 15 prochaines minutes. Ça va remplir un peu. OK, on va dire un mot de prière. J'arrête de dire des niaiseries. On va commencer le cours. Éternel notre Dieu, on veut te remercier pour ce beau soleil de printemps, Seigneur. Ça fait du bien, enfin, de voir la température se réchauffer, de le sentir. Merci, Père, pour cette assemblée ce matin, ce beau baptême auquel on va assister. Le plaisir de se retrouver, Seigneur. Père, on veut te demander de nous édifier ce matin ensemble. De venir nous aider à être là les uns pour les autres, attentifs à l'écoute les uns des autres, disponibles pour une personne qui aurait besoin simplement qu'on lui présente l'Église ou qu'on soit là pour prier avec elle, pour aller prendre un café cette semaine, Seigneur. On te demande de nous aider à vraiment être l'Église ce matin ensemble. Et on te prie, Père, de nous faire grandir aussi dans notre intégrité, je dirais, Seigneur, dans notre marche chrétienne, dans notre témoignage auprès des gens autour de nous qui ont tellement besoin d'entendre parler de toi et de voir, Seigneur, des vies qui sont profondément affectées et transformées par l'Évangile. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Bon, ben bienvenue tout le monde. Je vais juste partir ma petite minuterie. Alors, ce matin, on termine, dans le fond, on termine les leçons sur le cours « La mort dans la cité » de Francis Schaeffer. Et puis, dimanche prochain, on commence un autre livre, je l'avais mentionné depuis le début, qui s'appelle « Dieu ni silencieux ni lointain ». C'est une plaquette, une philosophie chrétienne. C'est encore par Francis Schaeffer, donc on va continuer dans le même sens, mais on va être moins dans l'apologétique, puis plus dans une vision du monde, je dirais, chrétienne. Celui-là est disponible beaucoup plus facilement parce qu'il vient d'être édité aux éditions Cruciformes. Et donc, c'est possible de se procurer celui-là si ça vous intéresse de le lire. Vous pouvez venir juste voir tout à l'heure. Vous avez ça aussi à quelque part dans vos notes. Ça va? Alors, ce matin, leçon 9. Si vous n'avez pas pris les feuilles de notes, on s'excuse aussi. On a eu un petit délai là, dans les courriels, mais je pense que tout le monde a reçu. Ceux qui sont sur la liste d'envoi, vous avez reçu les notes de cours? Oui? Non? Merci. OK. Dans le fond, ce que M. Schaeffer veut faire en terminant son bouquin, c'est qu'il s'adresse davantage aux chrétiens cette fois-ci et l'importance pour nous d'être constant. J'ai un vieux film à l'esprit. L'importance, the importance of being earnest. Puis ce qu'il cherche, dans le fond, c'est un témoignage qui va être intègre. Si vous vous rappelez au début du cours, lorsqu'on est allé dans Jérémie avant d'aller dans Romains, tout ça, Schaeffer insistait sur l'idée, le rôle de témoignage que nous, on doit avoir pour apporter une vision du monde chrétienne et que les gens puissent le voir dans nos vies. Donc, je vous lis juste l'introduction, puis on se lance. L'homme qui a une vision purement matérialiste du monde ne peut en saisir la véritable richesse, car il se limite à une seule partie de l'univers où nous vivons. Simplement ce qu'il va pouvoir saisir avec ses yeux, ce qu'il va pouvoir analyser avec sa raison. Il arrive pourtant que l'homme qui a connu Dieu en vienne à vivre de la même manière que le matérialiste. Et c'est ça que Schaeffer va adresser dans la deuxième partie ce matin. En effet, si le chrétien ne vit pas par la foi, sa situation est-elle véritablement meilleure que le matérialiste? Puis la question qu'il pose, c'est, est-ce qu'un chrétien peut en venir, malgré le fait qu'il a une assurance pour son éternité, à vivre à tous les jours en réalité comme un matérialiste? Là, vous vous rappelez, quand je dis matérialiste, on ne parle pas d'aimer les biens matériels, on parle d'avoir une vision simplement matériel du monde, comme si l'univers ne s'expliquait qu'à partir de la matière, de ce qu'on peut vraiment voir et analyser. Dans cette dernière leçon, tirée du livre « La mort dans la cité », nous verrons la vie par la foi de celui qui a connu Dieu et sa grâce. Notre monde sans Dieu a désespérément besoin de voir les chrétiens vivre par la foi. Donc, c'est une citation qui est tirée de Romains 1, 17, évidemment. « En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Ce passage ne s'applique pas qu'au début de la vie chrétienne, mais bien à toute la vie chrétienne. Chaque instant, chaque moment de notre vie se vit par la foi. Puis avant de parler du chrétien, Schaeffer raconte dans son livre une allégorie, d'accord? Pour illustrer le fait qu'il y a deux visions du monde qui sont mutuellement irréconciliables, la vision du monde d'un chrétien, puis la vision du monde d'un matérialiste, de celui qui pense que tout n'est que matière et on doit pouvoir n'est vrai que ce qui peut s'expliquer avec la raison, d'accord? Peut-être qu'il y a des vérités qu'on n'a pas découvertes encore, mais simplement ce qui est accessible ou ce qui est raisonnable, disons, est vrai et juste. Et pour Schaeffer, ces deux visions du monde-là sont mutuellement irréconciliables. Lorsque le christianisme essaie de faire un bout de chemin pour réconcilier les deux, il ne peut que perdre la foi dans le processus. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en relation. On parle d'idées, de vision du monde. Puis il donne cette histoire-là, cette allégorie-là, pour l'illustrer, pour l'expliquer. Il dit, imaginez un instant que vous avez dans une pièce deux hommes qui sont là dans une pièce, chacun assis sur une chaise, une petite pièce, ok, grand comme un petit bureau, admettons, une très petite chambre. Et puis, il n'y a pas de fenêtre dans cette pièce-là. Il y a simplement des murs, tout est fermé, on ne peut pas voir à l'extérieur. Et imaginez un instant que cette pièce-là, dans le fond, c'est tout l'univers que Dieu a créé. Ces deux hommes-là vivent dans l'univers entier, puisque l'univers, c'est seulement cette pièce-là. Au lieu de vivre dans un univers en apparence infini, ils vivent dans un univers en apparence très, très fini, très limité. Puis ils sont là, et puis il y a donc un chrétien et un matérialiste. Le matérialiste dit, écoute, moi je veux comprendre pourquoi on est ici, je veux comprendre qu'est-ce qu'on fait ici, je veux comprendre c'est quoi l'univers où on existe, et donc je vais entreprendre des recherches pour analyser, pour comprendre l'univers. Et nous comprendre nous-mêmes. Et donc, il se lance dans des recherches pendant des années, parce que plus il avance dans ses découvertes, plus il apprend quand même que ces deux hommes-là vivent dans un univers infiniment petit aussi. Et donc, il y a beaucoup de choses quand même à déduire, à analyser, à observer. Écoutez, bon, c'est là que l'allégorie trouve ses fautes, là. C'est qu'il y aurait des sommes de livres tellement grandes qu'il ne pourrait même pas les garder dans sa pièce. Son univers rapetisserait au fur et à mesure que la bibliothèque grandirait. Mais admettons qu'il y a une somme incroyable d'informations. Juste là, là, honnêtement, juste là, scientifiquement, les observations qu'on pourrait faire avec deux êtres humains dans une pièce, la pièce qui est là, c'est déjà absolument énorme. Donc, des années plus tard, il revient à son compagnon d'univers puis il lui dit, voici la somme de toutes les analyses que j'ai faites, de tout ce que j'ai pu comprendre, de tout ce que j'ai pu analyser sur nous-mêmes et sur l'univers où on vit. Et puis là, il donne ça au chrétien pour que le chrétien puisse s'instruire puis qu'il puisse lire tout ça. Puis le chrétien passe à travers la somme incroyable d'informations qu'il est allé chercher avec toute son intelligence qui a été déployée. Et puis à la fin de toutes ces lectures, le chrétien dit, écoute, c'est absolument extraordinaire. Tu es un être vraiment brillant, tu as fait des observations incroyables, tu m'aides à comprendre un paquet de choses que je n'avais pas compris. Si je ne prenais pas le temps de réfléchir comme ça, je ne pouvais pas les saisir, ces choses-là. À la fin de tout ça, il lui dit, il reste quand même que si tu veux saisir quel est l'univers où on vit, quel est son sens, quelle est son origine et qui nous sommes, il te manque encore énormément d'informations. Fait que le matérialiste s'exclame et dit, mais voyons donc, ça se peut pas, j'ai tout examiné sous toutes les coutures. Puis le chrétien dit, bien voici, j'ai un livre ici, on va dire qu'il l'avait caché, là, ok. J'ai un livre ici qui s'appelle la Bible. Et dans ce livre-là, tu vas trouver des explications, plein de réponses aussi. Il y a plein de choses que tu ne pouvais pas simplement observer avec ta raison. Par exemple, d'où vient cet univers-là? Est-ce qu'il y a un créateur ou est-ce que c'est purement accidentel? Quel est le sens de cet univers-là? À quoi il sert? À quoi est-ce que nous servons? Et donc, voyez-vous, ce que Schaeffer voulait illustrer, c'est que si aux yeux du matérialiste, le chrétien passe pour un fou, parce qu'il parle d'un univers, d'un aspect, une portion, une partie de l'univers qui est invisible, aux yeux du chrétien, le matérialiste passe pour un être déséquilibré. Parce que tout ce qu'il va saisir, c'est la partie visible de l'univers. Tout ce qu'il peut appréhender avec sa raison, qu'il peut voir, qu'il peut saisir par déduction, c'est absolument et uniquement ça qu'il va être capable d'expliquer. Et donc, il y a toute la partie invisible de cet univers-là qu'il ne peut pas saisir, qu'on va appeler des fois surnaturel. D'accord? Et donc, ce que ça donne, c'est que, aux yeux du matérialiste, le chrétien, c'est un fou. Il essaie d'expliquer des choses invisibles à partir d'un livre qui nous parle d'un Dieu invisible. Et puis, aux yeux du chrétien, sans dire que le matérialiste est un fou, il apparaît comme quelqu'un qui est déséquilibré. Parce qu'il lui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'explications. Et donc, si je vous ramène dans ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, dans les leçons précédentes à partir du livre de Schaeffer, c'était un petit peu ça le point que Schaeffer est en train d'établir, c'est que les questions les plus existentielles que l'être humain se pose ne se répondent pas uniquement avec une vision matérialiste de l'univers. On ne trouve pas réponse à plein de questions existentielles, fondamentales, que tous les êtres humains se posent consciemment ou non et qui définissent dans le fond le sens de notre existence. D'où vient l'univers? Est-ce que l'univers a un sens? D'où est-ce que je viens? Est-ce que je suis simplement animal? Quel est le sens de mon existence? Est-ce que j'ai une destinée? Pourquoi est-ce que je ferais le bien? Pourquoi est-ce que je ferais le mal? Toutes ces choses-là ne trouvent pas réponse uniquement en observant les choses matérielles. Et donc, aux yeux du chrétien, il manque toute cette partie-là, l'information sur l'invisible. Et de ces deux perspectives-là, on va tirer deux philosophies profondément divergentes. Maintenant, il y en a qui le font. Là. Il y a des gens qui ont une vision matérialiste uniquement de l'existence, de l'univers, et qui construisent une philosophie à partir de ça. D'accord? Ça existe. Là. C'est pas qu'il n'y a pas de philosophe chez les gens qui sont matérialistes. Pas du tout. Mais ça va être une philosophie extrêmement différente parce que les fondements ne sont pas les mêmes du tout. Le sens n'est pas le même du tout. Et donc, le point de Schaeffer, c'est que ces deux visions du monde-là, ces deux philosophies-là, sont mutuellement irréconciliables. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas dialoguer. Mais chaque fois que le christianisme a essayé d'aller s'adapter à une vision matérialiste de l'univers, et comment est-ce qu'on fait ça? Comment un chrétien peut s'approcher d'une vision matérialiste de l'univers pour chercher un terrain d'entente sur notre vision du monde? Est-ce qu'on a vu ça à travers l'histoire de l'Église? Est-ce qu'il y en a qui connaissent assez l'histoire de l'Église ou de la théologie même des deux derniers siècles? À travers, bon, toi tu dis l'Église unie, mais en fait c'est tout le courant de la théologie libérale, okay, dont l'Église unie fait partie. C'est-à-dire que les chrétiens vont dire, OK, admettons que les miracles, c'est des contes, c'est des illustrations, c'est pas quelque chose qui s'est passé factuellement. Parce que si je veux discuter avec un matérialiste puis être tenu pour quelqu'un de raisonnable, d'intelligent, il va falloir que j'exclue ça. Et donc, c'est ça que la théologie libérale a fait. Elle a dit, OK, on va exclure ça puis on va dire que ce sont juste des leçons, des préceptes, des principes qu'il y a là. Bien, au fur et à mesure que tu avances sur cette voie-là, le chrétien perd son âme. Parce que finalement, le christianisme devient juste un système psychologique, une approche, une vision psychologique de l'être humain pour pouvoir expliquer comment est-ce que tu peux motiver l'homme à faire ceci, à faire cela. Est-ce que vous me suivez? Profondément, si ça, c'est pas vrai, que c'est juste des illustrations, ultimement, est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Jésus est vraiment venu? Est-ce qu'il est vraiment mort et ressuscité d'entre les morts, surtout? Est-ce qu'il y a eu une résurrection? On est encore dans le miraculeux. Et donc, comprenez, on est tous en train de perdre littéralement notre âme dans le processus. Et ce que ça fait, c'est exactement ça. C'est que l'Église, toutes les Églises qui ont décidé d'emboîter le pas dans une théologie plus libérale, ont perdu leur âme dans le processus. Puis ont perdu l'Évangile. Puis ils arrivent à une espèce de Jésus modèle. Non pas Jésus sauveur, mais Jésus modèle. Jésus modèle à suivre, à imiter, mais pas celui qui te sauve de ce qui est impossible pour toi de réaliser. Pas celui qui te sauve de la justice divine. par exemple. Schaeffer termine son allégorie avec une dernière illustration. Il dit, admettons que dans cette pièce-là, vous avez le matérialiste qui habite, puis vous avez le chrétien qui habite. Les deux sont ensemble, il y a une horloge. Puis à un certain moment donné, l'horloge arrête de fonctionner. Fait que le matérialiste, chrétien aussi, pourrait prendre le même chemin définitivement au départ, mais dit, ben, on va l'étudier, on va la défaire, on va la remonter, puis ça va marcher cette affaire-là, mais il ne trouve aucune explication. Parce qu'avec la science, on n'arrive pas encore à tout expliquer. Admettons que leur science à eux ne leur permettrait pas d'expliquer ce qui fait que cette horloge-là ne fonctionne pas. La remonte, l'installe au mur, c'est maintenant un bibelot. Ben, le chrétien n'a pas terminé. On a juste fait la moitié du chemin, tout au plus. Fait qu'il dit, ben, je vais prier maintenant. Si on n'est pas capable de le régler nous-mêmes, je vais prier. Fait qu'il commence à prier pour que Dieu fasse que l'horloge marche. Admettons que l'horloge commence à marcher. Ben, comment est-ce que le matérialiste doit voir ça? Coïncidence, la science nous aidera à le comprendre plus tard. Le chrétien va dire merci Dieu. J'ai donc deux visions du monde mutuellement irréconciliables, en opposition une à l'autre. Fait que Schaeffer raconte qu'il était dans un avion, un quatre moteurs, dans le temps où on voyageait encore avec des quatre moteurs. D'accord? À un certain moment donné, pendant qu'ils sont en vol, il y a deux moteurs d'un côté qui s'éteignent en même temps. Fait que la panique commence à s'installer dans tout ça. Schaeffer dit, ben, je fais ce que tous les chrétiens font. Je commence à prier pour que Dieu mette sa main, tout ça. Puis finalement, après je ne sais pas combien de temps, le moteur a reparti. Tu sais. Et puis après ça, il y a eu l'occasion de jaser avec le pilote. Puis il ne pouvait pas s'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. C'était la première fois que ça arrivait que les deux moteurs s'éteignaient en même temps. Donc il n'y avait pas d'explication. Peut-être qu'il y en aurait une éventuellement. Schaeffer lui a juste dit, ben, je sais c'est quoi la raison pour laquelle ça repartit en tout cas. J'ai prié. Puis Dieu a répondu. Il dit, évidemment, qu'est-ce que vous pensez que j'ai eu de l'air aux yeux du pilote? C'est deux visions du monde mutuellement irréconciliables. Oui, François. Qui sont incompatibles, tu dis? OK. Oui. OK. Oui. Oui, oui, oui. Oui. Je te dirais que tu vas trouver chez tous les chrétiens des explications possibles, OK, ouvertes à ça, mais à la... Ça sera pas long, David. Ouais. Ça se peut comme de dire que Jésus est ressuscité aussi, c'est une insulte à l'intelligence des non-croyants, comme beaucoup, beaucoup de choses le sont. Fait que oui, c'est possible que ce soit farfelu comme explication. Dieu nous le dira lorsqu'on arrivera là. Il y a des explications que les chrétiens vont adopter qui sont plus plausibles. Okay, fait que oui, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne défendent pas que la Terre a été créée en sept jours. D'accord? Puis des chrétiens conservateurs, là, qui disent bibliquement, au niveau de l'exégèse, ça se défend aussi. Ouais. Mais de toute façon, tu vas. Alors, la position, je crois, la plus sage à prendre, puis à partir du moment où tu adoptes cette position-là, si ton interlocuteur non-croyant a la même attitude, on est sur un bon chemin. À partir du moment où moi je dis, il y a encore beaucoup d'autres choses que je ne peux pas expliquer. Puis il y a des choses même que la Bible affirme que je ne peux pas expliquer. Il y a beaucoup de mystères pour moi. Puis oui, je reconnais qu'il y a une apparence il y a quelque chose d'apparemment irréconciliable avec ce que la science affirme avoir découvert puis ce que la Bible semble affirmer. Je le reconnais. Pour moi, il y a une part de mystère là. Maintenant, est-ce qu'il y a des mystères dans ton système à toi? Ou est-ce que tu as élucidé tous les mystères? Si l'interlocuteur qui est devant moi, qui est non-croyant, a l'humilité de reconnaître ce que les plus grands scientifiques veulent bien reconnaître, c'est que la science soulève plus de mystères qu'elle ne donne de réponses sur l'univers. Parce que il y en a plein, là, on peut en citer plein, des excellents scientifiques qui disent, Écoute, il y a encore beaucoup de mystères, puis c'est difficile de croire qu'il n'y a rien, qu'il n'y a personne derrière ça. Il se divise des deux côtés, là. Fait que si mon interlocuteur a l'humilité d'avoir cette attitude-là, puis de reconnaître que lui aussi a beaucoup de mystères, on peut avancer ensemble. On peut faire un bon bout de chemin. Je pense que l'erreur qu'on va faire, les chrétiens, c'est lorsque j'ai pas les réponses, juste taper plus fort sur la table en disant « voici, c'est ça la réponse », ça a de la cocombe solide. Fait que c'est plutôt là que moi je me retiens lorsque j'ai pas les réponses, puis j'ai pas les bonnes explications. Ce serait comme ça que je l'approcherais, moi, François. Oui, David. C'est quoi le point de vue présuppositionnel?
Dans lequel nous, on présuppose que la Bible est l'autorité utile pour toute matière de foi et de raison et des sciences. Aussi, on a de voir comment Dieu est capable de créer l'univers d'un seul coup avec l'apparence qu'il a.
Ben, c'est ça. Moi, je vous dirais, là, dans le fond, il y a deux choses. Pour reprendre ton terme, il y a des présupposés que les matérialistes ont qui sont très, très difficiles à défendre. Avec une vision seulement matérialiste, ils s'illustrent bien dans le domaine moral. Okay? Pourquoi sauver toute la population de la Terre? On le sait qu'on a un problème de surpopulation. C'est pas toute la Terre qui est productive. Pourquoi pas laisser une grande portion des êtres humains mourir? Puis juste, t'sais, après ça, on trouvera comment on peut vivre plus nombreux sur la Terre, mais pour l'instant, sauvons cette planète-là. Puis trouvons des moyens plus écologiques de créer de l'énergie puis tout ça. Fait que laissons une grande portion de la population mondiale mourir. Ça serait une déduction très, très logique dans une vision matérialiste du monde. Fait que le présupposé, l'idée de dire « non, mais c'est mal » dans une vision matérialiste du monde, c'est un peu farfelu. Pour moi, comme chrétien, c'est dur de comprendre qu'un matérialiste va me dire « non, c'est mal, il faut essayer de sauver tous les êtres humains. Je ne comprends pas comment tu réfléchis, ça ne se tient pas ton affaire. » Donc, ils ont aussi des choses qui sont difficiles à défendre dans leur vision des choses. Il y a des choses qui... Il y a des explications qu'on va donner. Par exemple, lorsque tu parles de l'âge d'Adam et tout ça, ou l'âge de l'univers, on a des explications, mais je comprends que pour eux, ça a de l'air farfelu aussi. J'aime bien l'approche de Keller qui dit, est-ce qu'on peut commencer à un endroit où on reconnaît qu'on a tous les deux des parts de mystère, puis tous les deux ont fait acte de foi dans plein de questions, dans plein de domaines. Si on a ce terrain d'entente-là, je vais pouvoir te partager ma vision du monde, tu vas pouvoir me partager la tienne. Et puis, hop, là, à un moment donné, on fait un bout de chemin de ce côté-là. Puis, on peut aller chercher les réponses les plus plausibles qu'on a scientifiquement à des questions comme celle-là aussi. Mais j'aime cette idée, personnellement, d'amener mon interlocuteur juste à admettre que lui non plus n'a pas toutes les réponses. C'est ça qui est notre plus grande difficulté. C'est qu'il nous aborde dans cette conversation-là en disant « vous êtes des gens simples ». Tu sais, mais si je suis si simple que ça, j'ai besoin que tu m'expliques des choses parce que des affaires que je ne comprends pas dans tes décisions. Puis, fait que je comprends que je suis simple, j'ai besoin de ton intelligence pour comprendre quelque chose ici, dans votre manière de gérer l'univers. Brièvement. Moi, je sens qu'il y a un beau café qui est en train de se préparer pour quelques frères. Merci. Merci, M. Douillard. Mais c'est des belles questions à étudier. Si vous voulez lire là-dessus, on va vous fournir des bonnes lectures. Donc, si je termine avec cette idée-là des deux visions du monde qui sont mutuellement irréconciliables, ta question faisant encore la démonstration de cette difficulté à réconcilier ces deux visions du monde-là. Ça devient d'autant plus important que les matérialistes qui trouvent pas de réponse dans leur système à eux, véritablement au sens de l'existence et à toutes ces questions-là, rencontrent des gens qui ne vivent pas comme des matérialistes. D'accord? Donc, ce moment-là où Francis Schaeffer a prié dans l'avion puis a pris le temps d'aller le dire au pilote, c'est fondamental. Parce que ces gens-là se rendront pas à cette vision du monde-là sans être exposés à une autre vision du monde. D'accord? Et donc, ils ont besoin, le monde matérialiste qui est tellement désespéré, qui vit pour ici, maintenant, juste est-ce que je peux tirer mon épingle du jeu à moi, puis une approche très hédoniste, très, très axée sur le plaisir, de manière assez désespérée. Ces gens-là ont désespérément besoin d'être exposés à notre vision du monde, mais pas simplement dans le langage, dans ce que ça nous apporte comme richesse. Si ma vision du monde ne fait que me rassurer sur l'éternité, mais qu'au quotidien, ça ne change pas mon existence, ça ne change pas mon expérience de la vie, ben j'apparais comme quelqu'un qui est aussi désespéré pratiquement que quelqu'un qui est matérialiste. Si vous allez avec moi dans les notes, je suis à la page au début de la page 3. Alors, la question plus pratique pour nous. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de vivre dans les faits au quotidien comme un matérialiste? Est-ce que c'est quelque chose de possible? David dit non. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est possible? Est-ce qu'un chrétien peut en venir à vivre au jour le jour comme un matérialiste? À ne pas vivre par la foi? À ne pas marcher par la foi? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on ne prie pas beaucoup parce qu'on a une vision très matérialiste de l'univers. On prie si l'avion va s'écraser, c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr qu'on prie si j'ai eu un petit conflit à la maison. Je ne suis pas sûr qu'on prie si, je ne sais pas, ma journée est gloomy et j'ai besoin de la voir autrement. Ma journée est sombre. Oui, je pense que les chrétiens peuvent vivre comme des matérialistes. La foi leur sert essentiellement à s'assurer qu'un jour, ils vont entrer dans un monde immatériel, surnaturel, puis on leur passe pour y aller. Puis je pense que c'est très possible de le vivre comme ça. Oui, oui. J'ai un conflit entre deux chrétiens, un conflit d'affaires. Aucun des deux veut céder. Aucun des deux veut être généreux puis renoncer à ses biens. Je suis désolé, c'est un matérialiste. Il se comporte exactement comme un impie. Exactement comme un athée. Je veux dire, il y a des athées qui feraient bien mieux que ça. Fait que, définitivement, un chrétien peut ne pas marcher par la foi à tous les jours. Et cette vision du monde-là qui fait que lorsque je me lève le matin, je considère que cette journée-là appartient à Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Les heures qui sont devant moi aujourd'hui, c'est Dieu qui me les confie pour que je le glorifie. Je peux me coucher le soir comme un matérialiste qui dit: la journée n'était pas pire, j'espère pas mourir cette nuit, puis par la grâce de Dieu, je vais être encore là demain. Par la grâce de Dieu, tu seras peut-être au ciel, ou par la grâce de Dieu, tu seras peut-être encore là demain. Ça sera encore la grâce de Dieu, mon ami. Puis si tu t'en vas de l'autre bord, dans ton cas, tu vas dire: waouh, ça c'est la grâce de Dieu. Je suis plus ici, je suis rendu de l'autre bord, parce que je suis dans la présence de Dieu. Donc oui, c'est possible pour un chrétien de vivre au quotidien comme un inconverti. Et on vient en église pour se recrinquer un peu puis se dire: ah oui, c'est vrai, Jésus existe. OK. Brièvement, David. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Oui, exactement. Oui. En fait, c'est bien dit, David, de dire qu'un athée même peut vivre comme un chrétien. Dans ceux qui ont vu le Heureux Naufrage, le petit documentaire de Guillaume Tremblay, ben, le comte Sponville, il dit: moi, je suis athée, mais les valeurs que j'enseigne à mes enfants, c'est les valeurs du christianisme, parce que je n'ai pas trouvé nulle part ailleurs un amour qui ressemble à celui-là. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille puiser dans le christianisme si je veux les plus hautes valeurs possibles pour mes enfants. Et donc, en ceci, un athée vit comme un chrétien. D'accord? Mais je crois définitivement que c'est possible aussi pour un chrétien de vivre comme un athée, comme quelqu'un qui a une vision uniquement matérialiste. Puis, Ne pas vivre par la foi au quotidien nous amène là. D'accord? Comprenez, quand je dis vivre comme un athée, je ne veux pas dire que jamais on est en relation avec Dieu. Oui, Suzy? Oui, c'est vrai. C'est de savoir si Dieu est sauveur et Seigneur de ta vie. C'est vrai. Ça, je vous dirais, c'est une partie. L'autre partie, c'est de voir Dieu dans ma soupe. C'est de le voir vraiment Seigneur, tu sais, à chaque instant de ma journée. Puis pas simplement Seigneur comme celui à qui je veux obéir à tous les instants, mais Seigneur souverain de l'univers aussi. Fait que c'est celui qui peut faire repartir l'horloge si elle ne marche pas, puis qu'on a tout fait, puis on n'arrive pas à la faire partir. Il peut la faire partir de l'horloge. Autrement, ma vision du monde n'est pas chrétienne. Puis l'avion, il peut s'arranger pour qu'elle ne s'écrase pas, puis qu'elle redécolle l'avion. Si dans mon quotidien, j'arrive à un endroit où, dans le fond, ma ressource n'est pas Dieu, ma vision n'est pas Dieu, puis je suis toujours en train de faire les choses par moi-même, bien, je vis au quotidien comme un matérialiste. C'est ça qui se passe. Puis dans des situations extrêmes, en désespoir de cause, je fais ce qu'à peu près tous les athées vont faire, parce qu'on a énormément de témoignages d'athées qui prient lorsqu'ils ont un gun sur la tempe, qui sont au front, à la guerre, deux secondes avant de mourir. Dieu, si tu existes, sauve-moi. Bon, les chrétiens aussi ont fait ça. Dieu, t'existes donc, sauve-moi. Il y a juste un si qui fait une petite différence ici. Mais c'est possible de le faire comme ça. Il y a un monde de différence entre le chrétien qui vit chaque jour par la foi et celui qui en fait vit chaque jour comme un matérialiste habité de bons principes chrétiens. Mais il y a peu de différence entre un tel chrétien et un matérialiste. Et donc, si le christianisme, après que j'ai cru, vous m'entendez souvent dire dans les prédications, je m'adresse aux gens qui cherchent Dieu puis qui n'ont compris de la Bible que les principes, la morale chrétienne, puis ils la trouvent géniale. Wow, c'est super. Puis vous m'entendez souvent dire, si c'est ça que tu as saisi du christianisme, tu n'as vraiment pas saisi l'essentiel encore. Il te manque encore le cœur, l'essentiel de tout ça. Jésus-Christ mort pour tes péchés, ressuscité d'entre les morts, salut par grâce, vie nouvelle en Jésus-Christ. Il te manque encore le cœur du christianisme. Puis ça se peut que le christianisme te rende infiniment malheureux, parce que vivre comme Jésus sans avoir Jésus en toi, c'est comme impossible cette affaire-là. Donc, d'une part, vous m'entendez dire ça. Mais comme Francis Schaeffer le dit ici, il dit, il y a un monde de différence entre un chrétien qui vit chaque jour par la foi et celui qui vit chaque jour comme un matérialiste habité de bons principes chrétiens. Donc, on peut aussi, comme chrétien, retenir au quotidien essentiellement du christianisme des principes. Un chrétien, ça ne fait pas ci. Un chrétien, ça ne fait pas ça. Ah oui, je devrais faire ça. Je te demande pardon, Seigneur, je n'ai pas fait ça. Mais je ne suis pas connecté. Je ne suis pas rempli de l'esprit au quotidien. Et donc, c'est là que Francis Schaeffer s'en va. Il dit, notre force, notre joie et notre paix reposent dans notre communion quotidienne avec l'Esprit de Dieu. Et ça, j'ai besoin de ça. Puis les gens autour de moi qui ont une vision du monde matérialiste ont besoin de rencontrer ma foi au quotidien. De rencontrer comment est-ce que je fais les choses autrement, comment est-ce que je fais des choix de vie autrement, comment est-ce que j'oriente ma vie autrement. Je ne reviendrai pas sur le matérialisme, si vous regardez mes notes. Sur le libéralisme, on l'a abordé déjà ici. Fait qu'on doit, les chrétiens, affirmer le surnaturel. On doit l'affirmer dans notre relation avec Dieu. On doit l'affirmer dans la maison. On doit l'affirmer dans notre relation avec les non-chrétiens. J'ai eu une belle conversation, je suis allé à une conférence au début de la semaine, puis quand je m'en revenais dans l'avion, j'ai jasé pendant 2 heures à peu près avec un monsieur super gentil, Domenico. Monsieur d'expérience, un homme d'affaires super passionnant, très croyant, mais avec une vision... Une drôle de vision, là. Finalement, le Dieu de toutes les religions, c'est... T'es né dans telle religion, va au bout de ta religion, t'as un million de choses à découvrir. Fait que, bien qu'il soit un catholique très pratiquant, il connaît pas Christ, puis il est pas là. Fait qu'à la toute fin, on a jasé ensemble, j'ai essayé d'aller sur ce terrain-là, on a eu du bon temps ensemble. Puis, comme je m'intéressais beaucoup à sa compagnie, il m'avait donné sa carte d'affaires, tout ça. Puis, fait qu'à la fin, complètement, j'étais déçu de pas avoir pu parler davantage de Christ. Donc à la fin, j'ai juste donné ma carte d'affaires. Puis j'ai dit, Domenico, j'ai dit, oublie-moi pas, puis moi, je t'oublierai pas. J'ai dit, ma business à moi, c'est la prière. Fait que je vais prier pour toi. Puis il a souri, puis il est parti. Mais il fallait au moins que je le laisse partir avec ça. Il fallait au moins que je lui donne ça. Cette vision-là que j'ai, moi, de je t'oublierai pas, puis je vais prier pour toi. Parce que Dieu n'a pas fini, comprenez? Donc cette rencontre-là qu'il a faite avec un chrétien doit lui donner une vision du monde qui est différente. Dans ce cas-là, dans son cas, lui, il était croyant, mais avec une drôle de conception de Dieu. Puis en fait, ce que Schaeffer dit, on est dans Romains pendant la série le dimanche matin, Schaeffer dit, cette attitude-là de foi, c'est ça qui va déterminer si j'arrive à vivre Romains 6. Mourir à moi-même, mourir aux œuvres de la chair, puis chercher quotidiennement à marcher par l'Esprit. Et j'ai bien aimé le fait qu'il soit allé rechercher la prière de Marie. Lorsque Marie a l'apparition d'un ange, puis que l'ange lui annonce que, d'une manière surnaturelle, l'invisible va entrer non seulement dans sa vie, mais dans son corps, puis va venir produire un enfant de manière surnaturelle. À la toute fin, c'est quoi la réponse de Marie? Elle dit, « Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Dans le fond, ce que Schaeffer dit, c'est que quand tu as une vision du monde chrétienne, à tous les jours, c'est ça que tu dis. J'ai ce que je vois avec mes yeux, puis ta parole m'informe d'une autre dimension de la réalité que je ne peux pas appréhender seulement avec mes yeux. Alors, Seigneur, pour moi, clairement, ce que je veux, c'est qu'il me soit fait selon ta parole. Je veux regarder le monde, réagir à ce qui se passe dans mon univers, dans mon quotidien, dans mes épreuves, dans mes défis, avec ta parole, Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Puis le chrétien est appelé donc à vivre par la foi en disant ça tous les jours de sa vie. Parce que c'est comme ça que je vais glorifier Dieu, mais parce que les gens du monde ont besoin de voir ça. Puis tout à l'heure, je l'ai illustré avec la prière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient avec nous sur la rue Lassalle, il y en a une couple. Qui était sur la rue Lassalle, lorsque l'église était sur la rue Lassalle? Une couple. On va voir si vous avez une bonne mémoire. Daniel Anderson était venu donner une conférence sur la prière, puis il avait fait une déclaration. L'absence de prière dans nos vies, c'est quoi? C'est notre déclaration d'indépendance envers Dieu. Alors, définitivement, je crois vraiment que c'est l'endroit le plus révélateur. La vie de prière d'un chrétien est probablement l'élément le plus révélateur à savoir si on vit au quotidien par la foi ou si on vit nos vies comme des matérialistes. Notre vie de prière est probablement, presque certainement, le meilleur indicateur à savoir si je vis comme un matérialiste ou si je vis comme un chrétien. L'absence de prière étant très, très révélateur, évidemment. Je vais terminer avec une citation de M. Schaeffer. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, la semaine prochaine, on commence le prochain bouquin. Toujours avec Francis Schaeffer, qui est une philosophie chrétienne. Et puis, on va rentrer dans les temps pour finir ça avant la fin de la session. Pour être un chrétien à part entière, on ne peut donc se contenter d'une adhésion mentale à la vérité. Il faut encore, sur la base de cette croyance, agir et vivre, je m'excuse, à tout moment par la foi. La vraie spiritualité consiste à agir d'heure en heure en vertu des doctrines auxquelles, comme chrétiens, nous pensons croire. Au début de son livre, je l'avais mentionné, Francis Schaeffer dit « L'Église contemporaine évangélique a besoin à la fois de vivre une réforme et un réveil spirituel. » D'accord? Et le monde qui nous entoure, qui est beaucoup plus matérialiste qu'avant, beaucoup plus sécularisé dans sa vision du monde, c'est-à-dire qui exclut la possibilité de Dieu, a désespérément d'être exposé à une église évangélique qui a vécu à la fois une réforme et un réveil spirituel. La réforme, c'est quoi? Réforme du 16e siècle, ça a été une redécouverte de vérités évangéliques, de vérités qui sont là dans la parole, qui avait été obscurci par toutes sortes de fausses doctrines, où on avait perdu l'Évangile littéralement, le salut par la foi, par la grâce. Et ça a été ça, la découverte majeure, il y en a eu plusieurs autres, de cette grande réforme-là du 16e siècle, d'accord? Et puis, on a assisté à travers l'histoire de l'Église à plusieurs réveils spirituels. Dans ces cas-là, ce n'est pas une vérité qui avait été déformée. Ce n'est pas qu'on enseignait le mensonge. C'est que la vérité ne nous affecte plus au quotidien. Et chaque fois qu'il y a eu des réveils spirituels majeurs à travers l'histoire de l'Église, il y en a eu plusieurs. Ce qui s'est passé, ce n'est pas que les gens disaient « Ah, il y a des pasteurs nous enseignaient des mensonges, c'était des faux docteurs pendant les deux derniers siècles. » Ce n'est pas ça. C'est que l'Église ne marchait pas au quotidien par la foi. Alors Schaeffer, toute la thèse de son livre, c'est qu'il dit « Le monde matérialiste dans lequel on vit, pour trouver des réponses aux questions les plus importantes que l'être humain se pose, ce monde-là a besoin d'être exposé à des chrétiens qui croient que toute la Bible est la vérité, qui sont solides, qui sont confiants, qui savent que c'est une vision du monde qui fait énormément de sens, qui ne sont pas gênés de le dire, qui n'ont pas peur de dire qu'un jour tu vas te présenter devant Dieu, puis Dieu va juger. Dieu va juger le bien et le mal que tu as fait, comme tu passes ta vie à juger tout le monde autour de toi. De la même manière, Dieu va juger, va déterminer les choses bien et mal. Mais non seulement ils ont besoin d'être exposés à des chrétiens qui affirment la vérité des Écritures, mais des chrétiens qui marchent au quotidien par la foi. C'est bon? Je vais m'arrêter ici. Je dois m'arrêter ici. On va terminer avec un mot de prière. Puis la semaine prochaine, on attaque le prochain bouquin. Celui-là est disponible en librairie si vous voulez faire la lecture en même temps. Seigneur, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est un vrai défi de commencer chaque journée en regardant à toi, en cherchant à vivre chaque jour, Seigneur, par la foi. Vraiment par la foi. Cherchant la plénitude de ton esprit, cette communion constante avec ton esprit, Seigneur. Je prie, Père, de nous transformer comme Église, nous, Seigneur. Chacun d'entre nous, dans cette pièce ce matin, aide-nous d'une part à être confiant, les deux pieds très solidement ancrés dans ta parole, pour pouvoir présenter cette vision du monde chrétienne, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de foi qui marchent au quotidien en communion avec toi, s'appuyant sur toi, Seigneur, pour nous conduire, pour intervenir, pour sauver, Seigneur, pour sauver les gens autour de nous. Fais de nous des gens de prière, Seigneur, qui marchons par la foi. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Merci. On continue la semaine prochaine.